blanche.
On poursuit pour cette deuxième partie consacrée à Benjamin Guaignot, CEO et fondateur d'Ornicar, un second volet de 40 nuances de Next consacré à sa vie, son œuvre, mais surtout sa vie. On démarre juste après ce jingle.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Benjamin, on aime bien revenir sur les débuts et le plus début possible, c'est l'enfance. Est-ce que l'enfant que tu étais avait ces petites choses qui font que tu es là où tu es aujourd'hui ?
Alors, rapidement sur mon enfance, donc moi je suis le dernier d'une famille de 4 enfants. Je suis né à Châteauroux et j'ai grandi dans un village qui s'appelle Dior, à côté de Châteauroux, donc c'est comme la marque mais avec un S. Et voilà, donc je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas, donc c'est vraiment la province profonde, hein, et je le dis pas de façon péjorative. J'ai deux parents qui étaient agriculteurs, exploitants agricoles, mais la version luxe de l'agriculture. Famille plutôt aristocratie française, vieille France, avec les valeurs qui vont avec, et aussi le cadre de vie plutôt privilégié qui va avec. Voilà, donc ça c'est un peu sur mon enfance et le contexte.
Quand ouais. T'associes le mot valeur et vieille en parlant de France, c'est-à-dire que le gamin que t'étais a dû lutter avec ses valeurs, cette approche?
Non, j'ai pas lutté parce que ça m'a donné des super bonnes bases. En revanche, voilà, quand je suis à l'école du village, on est assimilé aux bourges, aux richoux, aux je sais pas quoi, parce qu'on était dans le château du village, etc. Donc ça a été, en tout cas, il a fallu finalement arriver à se créer une carapace, à se créer une personnalité autour du fait, j'assume, j'ai des parents qui viennent d'une vieille famille française, qui ont du blé, dans tous les sens du terme, parce que c'était des exploitants céréaliers, mais qui ont de l'argent, et voilà, et je manque de rien, et je suis très heureux comme ça, et puis je vous emmerde.
Et est-ce que tu as réussi à te faire des copains? Est-ce que c'est facile de se...
Ouais, je me suis fait des copains, bien sûr, je me suis fait des copains, voilà, il y en a qui étaient plus gênés avec ça, je me suis fait des copains, je les ai pas beaucoup gardé après parce que c'était à Dior, puis après j'étais à Châteauroux, puis après j'étais à Paris, et donc comme pour tout le monde, quand on change d'école on perd un peu ses amis, donc loin des yeux loin du cœur, mais oui, j'ai réussi à me faire des copains bien sûr, et voilà, et puis de toute façon j'avais été quand même pas mal entraîné par mes frères, donc j'ai deux grands frères notamment, une grande sœur qui m'ont pas fait de cadeaux, et donc quand on est le dernier c'est en gros marche ou crève quoi.
Tu parlais de la carapace et du personnage qu'il a fallu se créer, c'était quoi ce personnage?
C'est un rebelle. Et donc, être rebelle dans mon école, c'est-à-dire, j'assume. J'assume qui je suis, j'assume que mes parents viennent de tel milieu, enfin moi aussi d'ailleurs, qu'on ait les moyens, etc., d'habiter dans ce genre de maison. Ma mère était maire du village. Avant elle, ma grand-mère a été maire du village. Le nom de l'école dans laquelle j'étais au primaire, c'était...
Portait ton nom?
Ma grand-mère.
Quand même pas, mais pas loin.
Pas encore. mais
parce qu'après, voilà. Ça l'a été, ou parce que après racheter Google, tu changes le nom?
Non, c'est le nom d'auto-école, oui.
Donc voilà, donc tout ça fait que j'ai dû assumer le fait, j'ai dû, comme tout le monde, enfin mes frères, etc., assumer ce qu'on était, et voilà. Et après, je me suis servi de ça pour aussi assumer le fait que j'étais pas toujours d'accord avec forcément tout ce qu'on m'avait inculqué dans mon éducation. Je suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs, quoi, encore une fois, exploitant agricole, etc. Et donc quand j'ai voulu monter une boîte...
Ils étaient à leur compte?
Ouais. Mes parents?
Ouais.
Oui, ils sont à leur compte.
Mais tu vois pas la même...
Ouais. Non, parce que...
L'indépendance, c'est pas l'entrepreneuriat.
L'indépendance, c'est pas l'entrepreneuriat, et surtout, en fait, c'est vraiment pas. Je veux pas du tout rabaisser ce que. Donc, j'ai perdu mon père à 14 ans, donc maintenant c'est ma mère. Donc, je veux pas du tout rabaisser ce que fait ma mère, mais on lui a donné des terres. et qu'elle fait prospérer, qu'elle exploite, etc. Mais on lui a donné quelque chose, on lui a donné son outil de travail. Et c'est super, et je suis très heureux pour elle. Et en plus, elle nous le lèguera le plus tard possible, mais un jour. Et donc, c'est merveilleux comme métier. Mais il n'y a pas ce... Pour moi, il n'y a pas cette feuille blanche de l'entrepreneuriat.
Merci pour le POC.
Je savais que ça te plairait.
Voilà, est-ce qu'il y a pas... d'autres entrepreneurs, soit parmi des frères et sœurs, ou dont les cousins,
non.
etc.
Non, je suis le seul entrepreneur. Si, maintenant, je dis n'importe quoi, mon frère s'est mis à son compte. Il est consultant en recrutement et s'est mis à son compte il y a 2 ans à peu près. Voilà, donc c'est encore un autre type d'entrepreneuriat.
Mais alors, du coup, ce qui veut dire que, en dehors de ton frère et toi, il n'y a pas forcément d'inspiration dans la famille. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres inspirations qui fait qu'on arrive, quel que soit le milieu social, mais disons d'un environnement qui n'est pas celui de la technologie a priori, ni de l'entrepreneuriat au sens start-up?
Mon cheminement, il a été le suivant pour devenir entrepreneur. C'est-à-dire que je suis trop feignant pour faire des études qui me permettraient de gagner suffisamment ma vie pour être libre. L'argent est un de mes drivers. Comment je hack ma carrière? Je vais pas attendre 50 ans pour m'acheter la voiture que j'ai envie, la maison que j'ai envie ou partir en vacances avec tous mes enfants, etc. Donc, il y avait la finance à l'époque, mais j'avais pas fait les études pour et puis je suis nul. Et il restait l'entrepreneuriat qui est un bon moyen finalement de hacker sa carrière et de... espérons-le, réussir très vite et atteindre tel niveau de vie, etc.
Mais quand tu dis que tu es feignant, du coup, on a un peu du mal à le croire, parce qu'on voit que tu as un gros travail. Donc, du coup.
Non, je suis pas un gros travail.
Non, mais je te taquine, parce que je vois exactement ce que tu veux dire. Mais du coup, pour le faire comprendre à nos auditeurs qui sont très nombreux et qui se disent, est-ce que je peux gagner de l'argent facilement en étant feignant? Est-ce que ça veut dire que dans ton esprit, tu te dis, entrepreneur, c'est un peu une voie rapide? C'est-à-dire, je fais beaucoup d'efforts maintenant, mais plus tard, je pourrais.
Ouais. C'est effectivement, c'est arrivé à ce niveau de patrimoine, dans un délai qui va être très court, que je pourrais peut-être faire en étant salarié, en évoluant dans une boîte, mais ça me prendrait des dizaines d'années.
Sur plus longtemps.
Donc c'est vraiment ce hacking de la carrière qui était pour moi clé. Alors même que ma mère me disait, mais va faire tes armes en entreprise, t'iras entreprendre après.
Mais ça rassure toujours les parents. Mais alors du coup, une fois que tu t'es fixé ton ambition, ton objectif, faut s'atteler au travail.
Ouais. Faut s'atteler au travail.
Ta stratégie pour y arriver. Alors tu nous as expliqué dans le premier épisode, en tant qu'en nuance de Next, sur Ornicard, comment vous avez choisi Ornicard. Mais avant d'en arriver à Ornicard, j'imagine qu'il y a eu toute une stratégie pour hacker cette fameuse carrière et cette vie tout court.
Ouais, c'est de l'opportunisme. C'est raconter à tout le monde que j'ai envie d'entreprendre. Donc ce qui fait qu'il y a des gens qui sont venus me voir avec des idées hyper embryonnaires de marché, etc. Et c'est saisir les opportunités. Enfin, j'ai eu de la chance, quoi. C'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis mis à travailler avec mon premier associé sur Ornicard. Et puis, c'est aussi de la chance.
Et donc, c'est tout de suite, en fait, puisque tu disais 23 ou 24 ans.
Ouais, en fait,
c'est juste après avoir été en école de commerce, c'est
ouais,
ça?
Oui, mais en fait, peut-être le trait de personnalité le plus fort chez moi, c'est que je suis quelqu'un de très impatient. Je me suis marié très tôt, j'ai entrepris très tôt. Évidemment, j'ai pas perdu une année dans ma scolarité. J'étais à 10 tout le temps, mais il fallait pas que je redouble. C'était juste pas possible. Et donc, je me suis retrouvé à 21 ans, en gros, diplômé, voire 21 ou 22 ans, je sais plus exactement. Je suis parti pendant un an faire le tour du monde.
Diplômé de quoi, pardon?
Pardon, de Euromed Marseille, qui est maintenant devenu Kedge Marseille.
Ouais.
Donc, une super école dans une super ville.
En tant que Marseillais, je ne peux que plus soyer.
Et donc, j'ai passé vraiment, c'est pas les années où j'ai le plus bossé, mais j'ai vraiment passé 3 ans incroyables.
Là, tu pars 3 ans.
Et là, je pars un an en sac à dos avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme, et un pote en Asie du Sud-Est et Australie. Évidemment, alors là, dans ma famille, c'est non mais super. Lui, il commence déjà à être en vacances avant même d'avoir travaillé, quoi. J'avais quand même fini mes études en alternance pendant un an et demi pour gagner suffisamment
de quoi partir.
Voilà.
En fait, tu parlais d'être feignant, mais peut-être c'est ça l'idée, c'est que pour s'octroyer une retraite peut-être très jeune, il faut quand même pas mal bosser avant.
Oui, alors peut-être qu'il y a des trucs que je ne considère pas comme du boulot,
ouais.
Mais aujourd'hui, ma grande force, c'est d'arriver à trouver les bonnes personnes et à les mettre au bon endroit au bon moment. Et je pense que c'est pour moi maintenant le rôle que j'occupe. Et j'ai toujours eu la chance d'être entouré par des gens incroyables, notamment mon associé actuel, Flavien,
qui lui est boss.
Qui lui, non mais moi aussi je bosse, mais qui est un bourreau de travail et qui est 20 000 fois plus brillant que moi. Et donc voilà, moi je suis la personne qui va faire le cake dans des podcasts pour justement permettre à la marque de toujours être vivante, etc. Je vais parler aux investisseurs, c'est moi qui vais lever les fonds. Moi je suis le Marseillais, alors que je le suis pas vraiment, mais le Marseillais de la bande, le commercial, quoi. Je suis le commercial de la boîte.
Et ça, tu le considères pas comme du travail?
Non.
Non?
Non, non, là, je
bien,
non,
ouais.
Là, je suis bien là.
Okay.
Je suis bien, j'ai mis mon téléphone sur mode avion. C'est pour moi, c'est
ça,
un rêve.
C'est bonheur. Hein. Sur ce rapport au temps consacré au travail ou au reste, on a une question de Maya Noël de France Digital. On l'écoute.
Vous avez un message.
Hello Benjamin. Tu m'as dit une fois qu'une de tes plus grandes fiertés était d'être capable de rentrer tous les soirs à 18h chez toi pour voir tes enfants et de reprendre le travail derrière. Est-ce que c'est toujours le cas? Et si oui, pourquoi est-ce aussi important?
Alors Maya, je
il n'y avait pas l'option sinon.
Alors, mais ça m'étonne pas qu'elle ait posé cette question, Maya, parce qu'elle me l'a déjà posée aussi par ailleurs, un peu différemment. Alors non, c'est plus le cas, parce que maintenant je rentre à 18h30 et je ne travaille plus derrière, donc ça a changé. Et ouais, bah, tout à l'heure j'en parlais. Ma priorité, c'est mes enfants. Et aujourd'hui j'en ai deux. Si je les vois pas grandir, si je passe pas du temps avec eux, si je passe pas mes week-ends avec eux, enfin moi tu ne me verras jamais travailler un soir, quoi, tard. Tu ne me verras jamais travailler un week-end, parce que ce temps-là est dédié à ma famille. Et si j'ai pas ça, ça vaut pas le coup, quoi. Parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, je m'en fous, moi, d'accumuler des euros sur mon compte en banque. Ce que je veux, c'est faire kiffer les autres, notamment ma famille, etc. Et donc, et je veux pas leur payer des vacances et moi être au boulot, quoi. Ça n'aurait pas de sens.
Mais donc, ce qui veut dire que tu accordes la même liberté aussi à tes équipes?
On est super alignés.
Non, parce qu'on pourrait se dire, bah, dans les startups, on bosse comme des fous, ouais, etc. Il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères ou pas? L'ambiance de travail?
Bien sûr. Ah, bah, c'est même pas que je le considère. C'est qu'on a, un culture code, espèce de document qui fait 22 pages sur la culture d'Ornicar, ce que c'est que d'adhérer aux valeurs d'Ornicar, et comment on quelle est l'ambiance et l'atmosphère qu'on veut impliquer dans la boîte. Donc, moi, je pense que, des gens qui ont un équilibre vie pro, vie perso, encore une fois, je dis pas de rentrer à 15h, hein, qu'on s'entende, mais voilà, moi je suis à 18h30, j'ai fini. De temps en temps, ça m'arrive de répondre à 2-3 messages Slack qu'on m'envoie à 20h, mais encore une fois, je considère pas vraiment ça comme du travail. Et donc oui, je pense que c'est sain que des équipes puissent avoir un équilibre entre vie pro, vie perso. On a qu'une vie, une phrase un peu con, mais pour moi qui a beaucoup de sens. Et si on passe son temps à travailler comme des couillons, on passe à côté de l'essentiel. Et Ornicar, c'est le bébé de personne. C'est juste un.
Mais pour arriver, alors du coup, pour arriver à créer cette culture, parce qu'on est dans le deuxième volet du podcast de Benjamin Guéniaud, donc on parle de l'homme, mais du coup, l'homme, il est, dans ton cas, il est très connecté aussi à l'entreprise, parce que tu dis que c'est pas du travail, en fait, ça en est, donc du coup, ça veut dire que c'est un plaisir, j'imagine aussi, et que tu fais des choses que tu aimes. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu peux, à partir du moment où vous avez passé sans salarié, etc., est-ce que tu parlais du culture code, est-ce que ça permet quand même de garder le contrôle, parce qu'il y a quand même des enjeux politiques qui se jouent dans une organisation, des gens qui ont envie de progresser, d'autres managers, ce qu'on appelle parfois le middle management, hein, ceux qui sont plus directement dans le comité de direction, mais qui aussi doivent refléter probablement votre esprit, votre culture et votre vision. Est-ce que ça dérape pas?
Non, a priori, j'espère, je touche du bois, mais normalement, ça dérape pas, parce que tout ça est normalement bien encadré, donc avec ce document. Donc les managers, s'ils sont là en tant que managers, c'est aussi qu'ils ont adhéré à ces valeurs, à cette façon de travailler. Le tout, c'est la cohérence. Il faut être cohérent du début à la fin. Et puis, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de pouvoir finalement mesurer l'impact des salariés, parce que, encore une fois, j'ai pas dit qu'on tolérait la médiocrité chez Ornicar, loin de là. J'ai juste dit qu'on n'était pas le genre de boîte où on aimait que les gens travaillent jusqu'à minuit. Enfin, il faut venir dans les bureaux à 20h chez Ornicar, il n'y a personne, quoi. Et c'est bien normal.
L'idée, c'est d'être ambitieux pour son projet professionnel comme pour sa vie perso.
Ouais, ouais. En fait, il faut être équilibré. Trop de vie perso, pour le coup, là, ça vient détériorer la performance de la boîte. Voilà, donc c'est nous, on bien sûr qu'on analyse et on surveille en permanence les performances de chacun, et la méthode des OKR, donc des objectifs and key results, dont j'ai parlé dans le premier épisode, qu'on applique chez Ornicar, permet aussi d'avoir une traçabilité de l'impact de chaque personne sur l'atteinte des objectifs, etc. Donc c'est tout un système en place. Par exemple, autre exemple, on a la culture de l'écrit. On essaie évidemment, comme de beaucoup de boîtes, de limiter les réunions, mais ça c'est bon, à la limite classique, mais tout passe par l'écrit. C'est-à-dire que nous, on a énormément d'asynchronicité.
Ouais. Ouais.
Merci. Enfin, beaucoup d'asynchrone. Et par l'écrit, parce que voilà, ça évite de faire la réunion. Je sais pas, on se dit au début de la réunion, mais en fait, il y a un document qui a été fait sur, bon, le logiciel s'appelle Confluence. Est-ce que ça vaut le coup de faire cette réunion? Pas sûr. Vaut mieux travailler et finir plus tôt pour pouvoir profiter des à côté, quoi.
Ouais, je questionne un peu cette question de l'écrit, parce que vous êtes beaucoup à utiliser cette culture. Est-ce qu'il y a quand même des limites que vous observez au quotidien? Je vois bien tous les intérêts, mais c'est comme tout, il y a toujours de pendant à une même médaille.
Il y a le loupé dans la communication de tel ou tel document. C'est pas parce qu'on l'a mis par écrit que tout le monde l'a lu. Et donc, il faut bien penser à ce que toute personne qui ait besoin de lire cette information ou ce document y ait eu accès. Donc, vaut mieux mettre un tout petit peu plus de monde en tagué dans le document qu'un peu moins. Et très vite, la personne taguée dira « bon, en fait, non, c'était pas pour moi, c'est pas grave ». Et donc, ça aussi, ça fait partie de la culture. Il faut quand même bien avertir les gens qui sont censés. Il vaut mieux en mettre un de trop qu'un de pas assez. Si on tue les réunions, c'est pour que quand même, il faut quand même que la communication soit faite.
Et tuer les réunions, ça veut dire qu'effectivement, il y a pas de réunion, ou non, ça veut dire que...
Si, il y en a jamais beaucoup trop.
Ouais.
C'est évidemment qu'on n'a pas tué complètement la réunion, mais on challenge ça et on travaille là-dessus, comment on peut réduire et à se poser des questions, etc. Donc, pour le coup, on a tout notre CODIR qui est très, très fanat de ça. Néanmoins, tout ce qui est entretien annuel d'évaluation, performance review avec les salariés, on les fait pas par A50, parce qu'il y a aussi du fit. Il faut comprendre ce que veut le salarié, quelle est l'ambition qu'il a, où est-ce qu'il veut aller, quelles sont les évolutions souhaitées, etc. Quels sont ses mal-être, etc.
Et est-ce que la culture du télétravail, du coup, avant ou après le Covid, d'ailleurs, est quelque chose d'important ou qui contribue à créer la bonne ambiance, ou au contraire, c'est plutôt, il vaut mieux que les gens soient plus au bureau, mais rentrent pas trop tard finalement.
Voilà. Déjà, la culture de travail, moi, comme un idiot, j'étais plutôt contre au début, jusqu'à ce que le télétravail, enfin, les confinements me laissent pas vraiment le choix. Et en fait, aujourd'hui, déjà, sur télétravail ou pas télétravail, si quelqu'un veut ne pas travailler chez Ornicard, il fera beaucoup plus de mal à la boîte en ne travaillant pas au bureau qu'en ne travaillant pas chez lui. Donc, je préfère encore qu'il soit chez lui à ne pas travailler qu'à être au bureau, à dire à tout le monde, viens, on va prendre un café, quoi. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, je crois beaucoup dans le management par l'autonomie. Tout ce que on est en train de faire avec Flavien, mon associé, on ne l'a jamais fait. On est jeunes entrepreneurs, on a commencé à 24 ans tous les deux, et donc on recrute des gens qui l'ont déjà fait, qui sont meilleurs que nous. Donc nous, je vais pas recruter quelqu'un comme Philippe sur l'assurance qui a, je sais pas quel âge il a, mais bon, qui a une certaine expérience, pour lui dire comment il doit gérer son travail, ses équipes, etc. Donc nous, on laisse le télétravail. On a fait une règle pour la boîte, et puis c'est à la main de beaucoup de managers de dire, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. On vous rend autonome là-dessus. On vous soutient dans toutes ces décisions. Néanmoins, on ne va pas faire le travail à votre place, et on ne va pas vous imposer des trucs qui seraient débiles ou contre-productifs compte tenu de ce que vous allez faire et la façon dont vous voulez interagir avec vos équipes de travail présentiel.
On dévie forcément, on revient toujours à la vie de l'entrepreneur et donc à son entreprise. Mais si on revient sur ce qui t'a forgé et les moments clés de ta vie, je lance ça là et tu me diras si tu veux en parler, mais t'as parlé du décès de ton père.
Ouais.
Et jeune.
Ouais, j'avais 14 ans. Donc c'est évidemment, c'est un point qui est structurant dans ma vie. On se retrouve à 14 ans et on n'a plus de repères paternels. On a une mère qui est très forte, qui tient la baraque extrêmement bien. Néanmoins, on a aussi une conscience de... Alors moi, je suis le dernier, donc j'ai entouré pas mal par mes grands frères et ma grande sœur. Mais il faut être présent aussi pour notre mère. Elle peut pas tout affronter toute seule. Et comme à 14 ans, on est dans la distance, on fait des conneries. Et donc, on essaye d'en faire un peu moins. Je sais pas si j'en ai fait un peu moins, mais voilà. En tout cas, on se prend peut-être un peu plus en main. Très vite, on m'a mis en pension à Paris. Et ça m'allait très bien. Et
on grandit plus vite.
Ouais, on n'a pas le choix. On est obligé parce qu'on a finalement on a plus de responsabilité quant à la vie familiale, et donc s'il faut pas surcharger notre mère, il faut être un tout petit peu responsable, et donc faut pas être un poids pour elle, qui avait déjà pas mal de choses à traverser. Donc évidemment, ça a été un point structurant de la personne que je suis aujourd'hui, et ça m'a aussi permis de relativiser beaucoup de choses, et c'est pour ça que je dis merde à énormément de choses, que je suis très transparent, que ça m'intéresse pas de jouer un rôle, de jouer un jeu, et donc ça a façonné l'entrepreneur que je suis. Quand je suis pas content avec un truc, je le dis. Quand j'attends pas de, enfin, par exemple, mes levées de fonds, mes process de levées de fonds sont c'est des pièces de théâtre, mais je suis insupportable avec les investisseurs qui veulent rentrer. Je suis une caricature de moi-même parce que je préfère qu'ils aient plutôt une image d'un entrepreneur capricieux, charismatique, etc., et que ça soit une bonne surprise pour la suite. Mais je veux aussi, c'est là où on marque un peu les limites. Bon, tout ça, ça m'a permis avec le fait de dire, OK, il y a des choses tellement plus graves comme le décès de son père, que finalement tout le reste a assez peu d'importance. Et voilà. Et donc, mon travail ne prendra jamais, mais jamais, 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 jamais le pas sur ma vie personnelle, quoi. Et ça, ça m'a aidé en disant, il y a des événements qui sont tellement traumatisants.
Sans que c'est un marqueur, ouais.
Ouais, ouais, on s'en fout du reste, quoi.
Alors, mais du coup, on s'en fout du reste, comme tu le dis, enfin, tu parles des histoires de levée de fonds, sauf justement des enfants, tu as bien insisté. Et du coup, probablement, bah, ton histoire personnelle structure aussi, prenons le père que tu es.
Ouais.
Et est-ce que ça te donne des réflexions? C'est des questions qu'on aime bien poser aussi avec Thomas, parce que du coup, on parlait d'héritage en termes de maison,
ouais,
de patrimoine, de terre, etc. Bon, mais là, il y a aussi un héritage culturel qu'on est en train d'aborder là, quelque chose d'immatériel. Qui a accéléré une forme de maturité chez toi. Non, c'est pas du digital, mais c'est quand même de l'immatériel au sens culturel. Et du même coup, toi, ta maturité accélérée. Et est-ce que tu penses à l'éducation de tes enfants ou tu te dis juste, il faut les aimer, il faut être là parce que tu as perdu ton père plus jeune et en même temps, je veux pas que d'un seul coup tu sois aussi le père absent à cause d'autres choses qui pourraient être la vie de l'entreprise.
Je pense aux deux. Je pense que je veux profiter de mes enfants. J'essaie de profiter de tous les moments avec mes enfants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aimerais à terme déménager de Paris pour profiter plus dans un endroit peut-être un peu plus nature ou plus mer. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et évidemment que je pense à l'éducation. Je veux que ça soit, alors pour l'instant, c'est deux garçons, mais des garçons, enfin, pour l'instant, j'en ai pas de troisième, quoi. J'ai pas prévu qu'il change de sexe, a priori. Ça peut arriver, mais je veux qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il soit heureux, qu'il soit audacieux, qu'il prenne des risques. Voilà. Et ça, c'est des valeurs qu'il faut leur inculquer, à mon avis, tôt. Parce que si j'arrive à avoir le succès que je veux avec Ornicar, ça veut peut-être dire aussi qu'ils n'auraient pas besoin, eux, de travailler, et c'est pas du tout les valeurs que je veux.
Voilà, c'est ça que j'allais te demander.
Ouais. Et ça, c'est clé, et c'est une réflexion de chaque instant, je ne sais pas, mais voilà. Donc, je veux profiter. Donc, je veux être un peu leur pote, mais surtout leur père. Et voilà. Et ma femme me dit que je suis un peu trop pote et pas assez père. Donc, je me soigne. Mais voilà, je passe mon temps dès que je suis avec eux, c'est pour me marrer, quoi.
Et quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on veut leur apprendre le goût de l'effort,
Ouais, je sais pas si c'est le goût de l'effort, mais c'est s'épanouir dans quelque chose qui est autre chose que s'ils arrivent à faire la carrière qu'ils veulent sans faire d'efforts.
Je suis pas
masochiste, hein. Donc si jamais ils y arrivent sans effort, très bien, j'ai pas besoin qu'ils transpirent absolument. Je veux qu'ils fassent quelque chose de leur vie, je veux que ça soit
et qu'ils se le doivent à eux, en fait. Je reviens Exactement. Sur c'est chercher la bonne manière de le dire, mais
tout à fait, qu'ils se prennent en main, qu'ils soient responsables et qu'ils soient ambitieux et qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Ça se trouve, c'est de l'effort, mais ça se trouve, c'est pas d'effort.
T'es un entrepreneur du digital, t'as des enfants, on parle beaucoup du rapport des enfants au digital. Je serais curieux de savoir comment toi t'appréhendes ces sujets-là avec eux.
Alors, il a 4 ans, l'aîné, hein, donc, donc là, on n'est pas encore sur...
Il n'est pas sur TikTok.
Il a déjà dit qu'il voulait créer un GAFA.
Donc non, c'est une question qui me fait peur. Enfin, pas une question, mais un sujet qui me fait peur. Hein, disant, effectivement, ce digital et toutes les portes que ça ouvre pour des âmes si jeunes et si sensibles, j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur parce que j'ai pas le choix d'y aller. Et je n'ai pas trouvé de solution. Et voilà. Donc, essayer de les préserver le plus tôt possible, mais surtout les rendre intelligents et critiques. Voilà, et c'est pour ça que je pense que ça passe beaucoup par l'échange, par la communication, par plein de choses, et que je ne veux surtout pas les mettre dans un truc où je les protège de tout. Il faut qu'ils soient conscients voilà, des risques qu'ils prennent et de la société et de ses dérives, parce qu'elles existent, quoi.
S'inspirer. Respirer.
Pour avoir un esprit critique, il faut aller chercher de l'inspiration un peu partout. D'où vient la tienne?
C'est horrible à dire, mais j'ai pas vraiment de... Je sais pas quelle est mon inspiration. J'ai personne qui me... Quand on me dit, quel est le...
Ça peut être un rôle modèle, mais ça peut être aussi... Peut-être quelque chose que tu as pu voir au cinéma ou des livres ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tu as une énergie qui t'a été inspirée. Et s'il n'y en a pas du tout, c'est intéressant de comprendre pourquoi d'ailleurs.
Ouais, je ne suis pas certain de voir ce qui m'inspire. Moi, ce qui m'inspire, c'est mener la vie dont je rêve. Donc ça, c'est la chose qui me fait lever le matin. Et donc, si je veux pouvoir partir en vacances, si je veux pouvoir gâter des amis, ma famille, etc., je vais pouvoir le faire. Un de mes rêves, lointains rêves, slash Paris, c'est très frais, c'était un pari qui a été fait avec mes frères en 2014, c'était vraiment tout début d'Ornica, et quelque chose qui m'a animé par la suite, et qui était, ok, si Ornica fonctionne avec une valorisation qui dépasse tant, tu t'engages à tous nous inviter en vacances. Et donc, le palier ayant été franchi il y a la dernière levée de fonds, et je reviens là, il y a 10 jours, je reviens de 2 semaines, un peu plus de 17 jours aux Maldives, où j'ai invité pendant la première semaine toute ma belle famille et puis la deuxième semaine toute ma famille. Voilà, et ça c'était quelque chose qui m'a, je sais pas si c'est inspiré le terme, mais c'est surtout ce qui m'a motivé. Et voilà, ça fait partie des choses où ça me fait lever le matin c'est ça ce qui m'inspire, c'est pouvoir faire kiffer les gens autour de moi, pouvoir me faire kiffer, j'ai pas envie de m'oublier, et d'être libre. Moi, j'ai tellement peur de sortir d'ici, de me faire écraser par un camion, et de me dire, putain.
J'aurais dû le former, lui.
J'aurais dû faire le permis moto.
Encore un qui a volé son permis.
Mais voilà, et donc j'ai ce peut-être ce truc de, je suis impatient et j'ai envie de croquer tout maintenant, tout de suite. Et l'entreprise, enfin Ornicar, c'est ça quoi. J'ai envie d'aller très vite, j'ai envie de croquer les étoiles et j'ai envie, là j'aimerais bien être la boîte la mieux valorisée de la tech française. Bon, je le suis pas, mais c'est ce qui m'anime. J'ai l'impression que c'est presque un échec tant que je le suis pas quoi.
Il y a un vrai questionnement entre ce que tu disais, vivre ce que je rêve, mais c'est très au présent et dans le plaisir de ce qu'on est en train de vivre, et en même temps l'ambition. Et c'est vrai que, et tu en as une, hein, tu l'as bien partagé, et à quel moment on se dit j'en suis là où je peux m'arrêter, ou enfin il y a quand même ce sujet, sinon on peut aussi ne jamais profiter,
c'est
réellement
très vrai. Et alors là, c'est mon plus gros ennemi, c'est l'éternelle insatisfaction. Et alors ça, c'est ma bête noire. Si je devais faire des insomnies à part pour mes enfants, c'est ça. C'est, est-ce que finalement je suis pas passé à côté de quelque chose parce que je courais après quelque chose qui était pas la bonne chose. Donc il me faut un seuil. Mais le problème de ce seuil, donc ce seuil, si on prend un exemple, c'est un nombre de millions d'euros sur mon compte. Là, j'ai beaucoup beaucoup de travail. Mais une fois que je l'ai atteint, est-ce que
la vie a changé? Ouais.
Ouais. Est-ce que surtout je vais chercher celle d'après, donc le seuil d'après, ou je vais plutôt finalement dire, bon voilà, moi je suis bien, j'ai de quoi vivre la vie dont je rêve, maintenant mon temps je dois le consacrer pour d'autres, pour des associations, pour du caritatif, ou entreprendre pour des raisons, pour des causes peut-être moins lucratives, etc. Et ça, c'est quelque chose que je me pose. Voilà, je me fixe ce seuil, j'espère que ce seuil ne bougera pas, je peux pas le promettre, et voilà. Et ça, c'est un de mes sujets, c'est est-ce que j'arriverai un jour à être rassasié.
On parle du rapport aussi, du coup, derrière ça, du rapport à l'argent. Je te propose d'écouter cette question.
Vous avez un message.
À 33 ans, quand on a très bien réussi la première étape de sa vie professionnelle, comment gère-t-on le regard des autres, de ses amis de toujours? Comment garde-t-on les mêmes relations sans que les revenus financiers individuels ne viennent altérer ses amitiés, ses relations sociales?
C'est ta maman.
Ouais.
Et on reconnaît le sens des valeurs derrière cette question.
Ouais, bah voilà, c'est tout à fait elle. Et c'est. Je sais que c'est un de ces points de crainte vis-à-vis du succès d'Ornicar.
Et de ton
passé,
succès derrière.
Actuel,
ouais.
Etc. Donc, et ce qu'elle ne veut pas, c'est que je change. En mal, en tout cas. Et voilà. Et donc, pour répondre à sa question, c'est aussi une réflexion de couple. Que j'ai beaucoup avec ma femme, qui est où est-ce que on est encore dans la normale, et où est-ce qu'on passe le connard enrichi, et ça, c'est un vrai
d'école de commerce.
Ouais, et ouais, le merdeux d'école de commerce. Et donc ça, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet, notamment, je pense, par rapport aux enfants. Je me suis posé la question, nous, quand on a vendu aussi Price Mister Rakuten, et puis on a eu des exemples comme ça de gamins qui allait dans les partait en voyage scolaire, et puis le gamin arrive un peu fatigué, les profs disent allez, on va aller à la cantine, il y a le gamin qui dit non, moi je préfère faire un room service s'il vous plaît. L'angoisse. Oui. C'était le fils d'un entrepreneur qui avait bien réussi, il se rendait plus compte.
Non, mais c'est un vrai sujet. Donc, bon, là, pour la question, c'est vis-à-vis des potes et de l'entourage et de la famille, il faut rester simple, quoi. Et il faut garder les pieds sur terre. Comment on fait pour garder les pieds sur terre? Il faut juste...
On achète un vin de merde.
Non, faut pas se flageller. Il faut juste être conscient de la chance qu'on a. Et donc, quand on rince ses potes, quand on les invite dans un week-end super sympa ou quoi que ce soit, on n'est pas là en train de dire « t'as vu comme je t'ai fait kiffer ». Non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Ça me fait trop plaisir de vous avoir. C'est déjà super cool que vous soyez venus. Et voilà. Et je pense que restez simple, essayez de pas prendre la grosse tête ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est juste de l'argent, c'est a priori une succession d'éléments de chance qui a fait que j'en suis arrivé là. Il y a un peu de travail, mais il y a aussi beaucoup de chance, et il faut en être conscient. Et donc l'humilité et l'absence d'ego, moi l'ego c'est quelque chose sur lequel je travaille en permanence, et donc ça répond aussi à la question qui est, ça pourrait gonfler mon ego de faire des super podcasts avec des super personnes comme vous, un entrepreneur successful, etc. Ça pourrait évidemment faire gonfler mon ego, voilà, j'essaye de digérer et de dire, mais c'est quoi le plus important? Enfin, le podcast était super cool, mais c'est la relation que j'ai avec mon pote, etc., d'aller faire des choses qui sont pas obligées de partir à Marrakech dans un hôtel 5 étoiles en business
pour kiffer. Ouais.
Non, mais c'est, il est vrai quand même, malgré tout, quand t'as effectivement plus de liberté ou plus d'argent, même si tu restes toi-même, etc., bon, bah, le regard des autres peut changer. Donc,
bien sûr.
Donc, ça fait partie de.
Bien sûr, bien sûr. Il faut aussi, tu vois, il faut pas ne pas profiter. Et donc, mais il faut juste trouver les bons moments. C'est-à-dire qu'avec ma femme, quand on part en vacances ou je sais pas quoi, bah ouais, on se fait vraiment kiffer, quoi. Mais quand je pars avec des potes, ça me dérange pas de faire des vacances plus cheap, quoi. Et je suis trop content, et parce que ce qui m'importe, d'ailleurs, elles sont pas cheap, elles sont super. Mais ce qui m'importe, c'est les relations qu'on a, c'est le verre de rosé qu'on va prendre avec modération, à l'apéro, et c'est ce qui compte, quoi.
Puis après, si les potes sont vieux, c'est que c'était peut-être pas des potes non plus. Enfin, s'ils sont pas heureux pour ton bonheur et ta liberté.
On les sent, hein. J'en ai peut-être eu un ou deux un peu jaloux. On en parlait.
Ouais.
La jalousie face à la réussite. Ah, ton appart. Bah voilà, bah ça y est. Maintenant, de toute façon, on peut plus parler avec vous. T'as vu la taille de ton appart. Vous avez plus le même problème. Mais je dis non, bah oui, on a plus le même problème. J'ai d'autres problèmes. Et voilà. Peut-être que tes problèmes sont plus graves que les miens. Je suis pas en train de faire un concours de taille de problèmes.
Je suis là pour parler des tiens. Je sais pas que t'es là pour parler des miens.
Ouais. Ouais. Ou sinon, on parle d'aucun et puis on kiffe et on parle. Enfin voilà.
On parlait de s'inspirer. Alors là, forcément, on n'a pas forcément trouvé ce qui t'inspirait. Par contre, comment tu respires? Ça, je crois qu'il y a pas mal de bouffées d'oxygène.
Ouais, comment je respire dans ma vie d'entrepreneur? Ouais, j'ai l'impression de me répéter, mais
il y a déjà la famille.
Bah ouais. Clairement. Hein,
non, alors du coup, je vais aller tout de suite sur. Tu prends des cours d'anglais et tu le vis comme une respiration depuis un moment.
Moi, ce qui est important, je trouve, c'est que en tant qu'entrepreneur, on peut être un peu isolé. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un associé maintenant, trois associés, donc ça, on se sent un peu moins isolé. Mais quand même, il y a des questions qu'on se pose. Typiquement, suis-je toujours? Parce que je challenge tout le monde. Non, mais moi, je suis là pour mettre la bonne personne au bon endroit, au bon moment.
Parce que moi, je suis au bon endroit.
Au bon endroit, au bon moment. Ça se trouve, je ralentis la boîte. Ça se trouve, moi, au poste que je suis, j'ai rien à faire ici, quoi. Et qui est-ce qui va me le dire? Mes associés, peut-être, ou peut-être pas. Mes fonds, alors, faut vraiment que j'ai fait une grosse bêtise pour qu'ils me le disent. Mes proches, ils en savent rien. Et donc, c'est moi. Et voilà. Et donc, c'est parti des questions. Donc, j'aime bien en parler. Avant, j'avais un coach, avec qui je parlais beaucoup de ces choses-là. Et puis aussi, aujourd'hui, maintenant, j'ai une prof d'anglais. Je prends des cours d'anglais parce que je suis nul en anglais. Donc,
Non seulement tu travailles sur tes questionnements internes et personnels, et en même temps, l'anglais.
Et en anglais, parce qu'à chaque cours, il faut trouver un sujet de conversation. Et donc, je pense qu'elle connaît tous les sujets que je me pose, des questions que je me pose, etc. Et elle m'écoute, et tout ça en anglais, et en fait elle fait juste m'écouter et poser des questions, et ça me suffit, ça me permet de respirer et d'essayer de, sans, je le fais aussi avec ma femme, avec ma, voilà, mais là dans un contexte professionnel, sans jugement, et surtout ça me permet d'essayer de m'exprimer en anglais, ce qui est pas une mince affaire.
Ça me faisait rire le nom Ornicard, évidemment. C'est comme une blague de potage, c'est à la fois du mauvais anglais et du bon français.
Ouais.
Et c'est assez drôle que vous ayez changé le nom en On Road après, alors que finalement le car, ça faisait un clin d'œil.
Alors, juste pour petite.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la création du nom.
Bah, du nom, déjà. Alors, bon, on n'y qu'à 15, c'était pris, on voulait ça. Et puis, on s'est dit, bon, en fait, avec un chat, c'est pas mal. Et puis bon, on n'avait pas d'autre idée. Et surtout, on a changé de nom parce que Ornicard en Espagne, si on rajoute un F devant, ça fait fornicar. Et fornicar, c'est pas possible, quoi. en espagnol, c'est clairement pas jouable. Et donc, ça a été une des raisons pour lesquelles on a changé de nom et on s'appelle maintenant On Road.
Que vous saviez déjà que vous alliez partir en Espagne?
Non, mais on a changé de nom.
C'était au moment d'aller.
Au moment d'aller en Espagne, on a changé. On s'est dit, à l'étranger, on va s'appeler On Road.
J'accélère un peu.
La claque, oui, c'est un point important parce que t'as été tout à fait humble et reconnu les moments difficiles, etc. Mais est-ce qu'il y a une claque, c'est toujours pour nous le mot résilience souvent qu'on emploie pour les entrepreneurs qui est parfois un peu trop à la mode, mais en réalité qui est important, qui est la capacité à se relever après un échec, etc. Est-ce qu'il y en a une que tu serais prête à partager dans le sens on apprend aussi de ses erreurs?
Des claques, j'en ai parlé pas mal, mais évidemment, quand t'as plus d'argent pour payer tes salariés, c'est une claque, que ton associé vous brouillez, c'est une claque, que chaque licenciement, c'est une claque, une vraie claque pour Ornicard, mais c'est toutes des claques, genre, en fait les plus grosses j'en ai parlé, et là une claque récente, j'ai eu la chance de pouvoir discuter et de présenter mon projet Ornicard Assurance il y a un an à un monsieur éminemment brillant qui s'appelle Henri de Castres, c'est l'ancien PDG d'AXA, et donc j'y vais et en fait en tant qu'entrepreneur on est assez préservé.
Posé une question d'ailleurs sur Cœur Nuance de Next, je ne sais plus à quel
entrepreneur, pardon. C'était aussi parce qu'il est aussi à l'Institut Montaigne, oui.
Ouais, exactement. Donc, en tant qu'entrepreneur, on avait levé 100 millions, etc. Tout le monde est là, et puis finalement, on vous critique plus trop, quoi. Les gens sont plutôt très bienveillants avec vous, voire parfois un peu focus.
Condescendants.
Voilà. C'est en tout cas, c'est rare qu'on nous mette une claque. Et donc là, je lui pitch Ornicard Assurance, et il me répond. Et je pense que il m'en voudra pas, je vais pas te trahir, pas de secret, mais il me répond, et je lui dis, mais quel est votre avis sur la vision? Parce qu'à la fin, je voulais aussi lui proposer d'être membre du conseil d'administration d'Ornicard. Il dit, membre du conseil d'administration, c'est non. Mais je vais répondre à votre vision, etc. Et il me dit, mais il faut me dire avant, vous voulez la réponse polie ou la réponse sincère? Donc déjà, ça commence mal. Ouais. Et là, évidemment, je demande
la sincère.
Et là, il démolit ma vision avec énormément de tact, de politesse et de bienveillance. Mais vraiment, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit que ce que je racontais depuis une heure, c'était autant aussi nul. Et ça. Et donc là, je me suis pris une claque, mais dont je me souviendrai une bonne partie de ma vie. Et voilà, ce qui m'a permis, évidemment, donc il m'a expliqué les raisons, etc. Encore une fois, c'était très complet comme retour.
Mais c'est pas juste c'est nul.
Non, c'est pas le genre du personnage. C'est nul pour telle raison.
De quoi se forger un avis d'entrepreneur et après d'aller ou pas dans ce sens.
Exactement. Et bien donc j'ai pris rendez-vous avec lui, parce que j'étais pas d'accord avec tout, et j'ai pris rendez-vous dans 3 ans. Et je lui dis, mais peut-être que dans 3 ans c'est Ornicard qui rachètera AXA. et dans ces cas-là, peut-être que j'avais raison ou peut-être pas. Mais voilà. Donc ça a été une vraie claque, c'est cette démolition de ma vision d'une personne assez impressionnante. Et moi, j'arrive tout confiant. Et voilà. Donc ça, je me suis pris bien en disant, tout n'est pas toujours acquis. Et ça fait du bien, ça remet les pendules à l'heure ou ça remet l'église au milieu du village, je ne sais pas, mais ça fait du bien.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, des fois, ont du mal avec ces retours négatifs. Alors évidemment, s'ils sont construits, c'est quand même mieux. Mais c'est aussi un formidable outil pour affiner son pitch, affiner son modèle.
Ah, mais c'est ce qu'il y a. C'est 100 fois mieux. C'est comme les entrepreneurs au début qui disent, ah, mais en revanche, tu gardes l'idée pour toi. Surtout, n'en parle pas parce que j'ai peur qu'on pique l'idée. Ça me fait marrer, quoi. Je dis, mais si quelqu'un a peur qu'on pique l'idée, c'est-à-dire que l'exécution va pas être terrible, quoi. Parce que c'est évidemment pas l'idée qui prime, hein, c'est plutôt l'exécution. Donc ça, c'est.
Ce qui va forger l'idée, c'est le contact avec tous les.
C'est surtout la façon dont on applique son idée, quoi. En parler à tout le monde de son idée, c'est des audits gratuits, quoi. Faites-vous défoncer votre idée, quoi. Et plus on va vous défoncer, plus ça va vous donner la niaque de dire, je vais répondre à cette objection parce qu'elle m'emmerde, cette objection. Et plus elle vous emmerde, c'est plus on touche du doigt quelque chose qui est sincère. Et donc, faut pas que ça nous démotive, mais
évidemment,
l'idée Day One, elle est jamais parfaite, quoi.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Ça, c'est typiquement le genre de chronique qui porte super bien son nom dès le jingle. C'est le moment de la carte blanche de Benjamin.
Sujet de mon choix.
Pas évoqué encore.
C'est-à-dire qu'on t'interrompra pas. Ça te fait une petite, un mini ni exposé sur un sujet qui peut te tenir à cœur.
J'ai parlé quand même de beaucoup de choses hein, dans ce qui me tient à cœur, que ce soit le rapport à l'argent, que ce soit la prise de l'équilibre vie pro, vie perso. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sujet carte blanche? Si un sujet carte blanche qui me tient à cœur, qui est un peu lié à ce que j'ai déjà dit, donc mais c'est pas grave. Que font les fonds? Alors, c'est une rubrique d'un média. Que font les fonds ou que font les board members?
C'est pas Madinès, ça, d'ailleurs?
Peut-être. Mais c'est même pas d'ailleurs que font les fonds, c'est que font les board members. Je trouve que, et là c'est un message que j'envoie, on ne nous challenge pas assez, on ne remet pas assez en cause la place du fondateur en tant que CEO. C'est un sujet qui m'importe, c'est des questions que je me pose et je ne sais pas avec qui en parler et je trouve que j'ai pas assez de claque. J'aurais aimé pouvoir raconter dans la claque le fait qu'un fondateur, un board member me dise mais en fait qu'est-ce que tu fous là quoi? T'es pas à la bonne place, tu fais n'importe quoi, tu ralentis la croissance. J'espère que c'est pas vrai, hein. Mais c'est, en tout cas, on ne m'a jamais posé la question. Mon board ne m'a jamais demandé, mais où est-ce que tu te vois dans l'organisation? Est-ce que tu penses vraiment que tu es la bonne personne, les yeux dans les yeux, pour être à cette place-là, à cet instant-là? Et donc, s'ils le font pas avec moi, c'est qu'ils le font avec personne d'autre. Et pourquoi? Parce que c'est un sujet qui fâche, c'est un sujet qui dérange, parce qu'on n'ose pas se dire les choses et qu'on n'est pas assez transparent. Et voilà. Et je pense que ça fait partie du rôle des membres d'un conseil d'administration, membre d'un conseil d'administration, un board member, c'est de dire et de demander à l'entrepreneur au moment où on investit ou après, mais en fait, t'es où toi dans l'organisation? Si tu mets ton ego de côté, est-ce que t'es toujours le CEO? Parce que moi, quand on a recruté un CEO assurance puis un CEO éducation, bon, nous on est CEO de plus grand chose, hein. Donc c'est pour ça qu'on a retiré finalement notre poste de CEO, on est cofondateur et on fait le lien entre ces deux activités. Mais voilà, je trouve que on devrait plus poser la question. On file 100 millions, 200 millions, 300 millions à des gens qui ont monté une boîte et il y a 3 ans, 4 ans, 6 ans, qui n'ont jamais eu autant d'argent à gérer, etc. Et qui ont tellement de responsabilités sans jamais qu'on leur dise mais est-ce que tu serais pas mieux à une autre place? C'est pas un appel que je lance, hein, mais c'est un questionnement que je lance au fond en disant mais vous êtes complètement fous d'investir autant d'argent sur une personne sans avoir vraiment challengé ses convictions sur la place qu'il doit occuper dans l'entreprise. Voilà.
C'est en vrai, t'aimes bien prendre les coups.
Ouais, j'aime bien prendre les coups. Mais c'est ce qui me fait avancer. Mais je trouve qu'on m'en met pas assez, on m'en met de moins en moins. Donc, avis à mes board members, déchirez-moi.
Et est-ce que toi, tu le fais dans ce cas-là aussi vis-à-vis de tes collaborateurs?
Ouais.
Moi, j'ai connu des gens dans mon équipe qui me disaient bon, en gros, vas-y, défonce-moi, c'est l'entretien annuel. J'ai pas besoin qu'on me fasse des compliments. Et c'est assez intéressant.
Mes qualités, je les connais. Ce qui m'intéresse, c'est là où je peux progresser.
Ouais, mais je le fais. Mais certaines fois, ça s'est mal passé, quoi.
C'est dur. Hein.
Et donc moi, on m'a gentiment dit, enfin, tu vois, les RH m'ont dit, bon, tout le monde n'est pas comme toi. Juste, il faut prendre en compte le fait que, voilà, les personnes avec qui tu échanges, faut aussi s'adapter à leur caractère, etc., à leur profil MBTI, qui est vraiment un des.
T'es quoi, toi?
Moi, je suis. ENTP.
Là, on a le T et le F. Pareil. Moi, je suis ENFP.
ENFP. Voilà. Et moi, c'est mon
enfin, j'étais. Ça peut évoluer.
C'est une certif de coach MBTI. Et voilà. Et donc, il faut aussi adapter son discours. Je ne sais pas si c'est mon principal dada, mais adapter son discours en fonction de l'interlocuteur. Et donc, voilà. Mais que le board member me demande en disant. Tu vois, enfin d'ailleurs, il n'a pas me demandé, il investit 100 millions d'euros chez moi, il peut me faire tout ce qu'il veut parce que je suis censé, moi, l'engagement que j'ai pris avec lui, c'est emmener la boîte au moins un fois 3 en maximum 5 années. C'est le seul engagement que j'ai pris avec lui. Mais pour ça, il faut qu'il soit sûr derrière que je sois la bonne personne au bon endroit. Si on ne nous challenge pas, c'est-à-dire que c'est à nous-mêmes de faire le travail, de se demander si une personne d'autre n'est pas n'est pas meilleure pour occuper la place que j'occupe aujourd'hui. C'est-à-dire que là, faut pas avoir d'ego, mais pas du tout, quoi. C'est vraiment presque se rabaisser en disant, est-ce que je suis nul? et finalement, c'est compliqué. Donc, si jamais le board member entame les discussions, c'est peut-être plus productif.
C'est les petites notes de musique qui nous invitent à considérer l'entrepreneuriat au féminin. Parce que tu sais qu'on est trop peu nombreux dans les CEO et fondateurs du Next 40, donc on cherche aussi à les mettre en lumière par exemple ton entremise. Alors est-ce qu'il y a une candidate qui pourrait être ensuite interviewée dans 40 nuances de Sista?
Écoute, alors je partage évidemment complètement ce triste constat qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat. J'ai pas d'analyse, hein, je sais pas à quoi c'est dû. Néanmoins, je salue toute initiative qui permettrait de mettre en avant le fait que l'entrepreneuriat c'est pas un truc réservé aux hommes. Et je me demande même si les femmes seraient pas meilleures pour entreprendre que les hommes. Et donc là, la Sista, évidemment que je voulais mettre à l'honneur en conseillant aujourd'hui, elle s'appelle Li Kai et Li est la fondatrice, cofondatrice de Lian. Une boîte, une insurtech qui aujourd'hui, avec un projet bien plus ambitieux, mais qui aujourd'hui a commencé par aider les personnes qui ont des sinistres à se faire rembourser par leur assurance. Donc finalement, un trouble fait pour les assureurs ou les distributeurs de produits d'assurance que je suis. Donc je suis un peu maso, mais j'aime bien.
On a compris ça.
Et donc voilà, je trouve que ça fait du bien. Je trouve que en plus elle est brillante et accessoirement elle est aussi mariée à quelqu'un de super qui était mon témoin de mariage. Mais voilà, je suis.
Et c'est pas pour ça que tu l'as choisi.
Bien sûr que non, je l'ai choisi pour ses qualités en tant qu'entrepreneur. Et voilà.
Et alors, si tu devais interroger l'entrepreneur qu'elle est avec une question que notre associé Solène Étienne lui pose en ton nom, ou peut-être moi si je poursuis encore un petit peu les Sista pour cause de bébé récemment né.
La question, elle va certainement être un peu tendancieuse, mais c'est pas très grave. Peut-être qu'un des freins dans l'entrepreneuriat féminin, c'est que les entrepreneuses sont moins à l'aise avec le bullshit dans l'ambition. Donc ma question pour toi, Li, c'est dans quelle mesure ton rêve, enfin ton ambition est de racheter tous les gros assureurs de la place, Google, et de manger le monde ?
Eh bien, cette question lui sera posée. Un immense merci, Benjamin.
Merci à vous.
Un bonheur d'avoir cet échange.
Un moment sans bullshit.
Ouais, ou du bullshit assumé quand c'était le cas. Donc un vrai plaisir.
Eh ben merci, c'était super cool comme toujours et bravo pour ce que vous faites.
Et c'est puis top. Comme apparemment tu bosses pas trop, je pense que tu as passé beaucoup de temps du coup à relayer ce
bien
podcast,
sûr,
à le partager à la terre entière et
ça sera fait.
Et notamment évidemment. Au patron de Google pour qu'il nous remonte aussi, pour qu'il nous remonte encore un peu dans les classements.
Sur Google Podcast.
Ouais.
Ok, ça marche.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci Benjamin.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.